Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Un siècle minier s'ouvre et la question qui se pose est de savoir où trouver tous les métaux dont nous allons avoir besoin. Que ce soit pour la transition énergétique ou la transition numérique, la production mondiale actuelle est largement insuffisante. Selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la somme des projets miniers prévus d'ici à 2030 est au maximum 10 fois moins élevée que les besoins. De plus, alors qu'une ruée sur les métaux s'amorce, le monde réalise l'emprise établie de la Chine qui exploite des mines sur son sol et à l'étranger, importe et raffine les minerais en métal avant de fabriquer une multitude d'équipements. Selon l'Institut de géologie des États-Unis, la Chine contrôlerait une trentaine sur la cinquantaine de métaux critiques et un tiers environ des réserves mondiales pour l'ensemble des métaux serait concentré en Afrique. La question des approvisionnements en métaux est au cœur des enjeux de souveraineté industrielle et les politiques des grandes puissances se multiplient pour trouver davantage de ressources minérales. L'intérêt pour les fonds marins n'est pas récent, mais il prend un sens nouveau avec la compétition entre États à laquelle on peut s'attendre à l'horizon 2050 pour sécuriser les ressources. De nombreux pays se tiennent prêts à conquérir cette nouvelle frontière pour satisfaire leur appétit. Entre impératifs de transition énergétique, préservation de la biodiversité et enjeux géopolitiques, que révèle ce nouveau front d'exploitation planétaire et jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre quête de ressources, faut-il ouvrir la boîte de Pandore? La question se pose alors que le sommet international sur l'océan se tient ce mois-ci à Nice, dans le sud de la France. Nos invités, Romane Luc, analyste en stratégie internationale spécialisée sur les enjeux maritimes, chargée de mission à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Émilie Normand, analyste en économie des matières premières stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel H, adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé à Economics. Bonjour.
Bonjour.
Depuis quelques années, les abysses attisent de plus en plus les convoitises à plusieurs milliers de mètres sous la surface des océans. On trouve des ressources rares et précieuses, nodules polymétalliques, sulfures hydrothermaux, terres rares, cobalt, nickel, cuivre, manganèse, de quoi alimenter les technologies dites vertes, batteries, panneaux solaires, éoliennes et répondre à une demande croissante. Les scientifiques alertent. Les écosystèmes sous-marins sont fragiles, en même temps que largement encore inconnus, et pourraient être durablement détruits avant même qu'on ne les comprenne. De tout cela, nous allons parler, mais finalement, quelle place pour cette question, la question des fonds marins, de leur exploration et de leur exploitation, quelle place pour cette question au sommet de Nice, Romane Luc?
Alors, pour revenir sur ce sommet, donc c'est la Conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est la troisième édition qui se tient à Nice en juin. Le but de cette conférence, c'est de soutenir la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14 qui porte sur la vie aquatique. Et donc, il y a un but de mobiliser les parties prenantes, impliquer les gouvernements, les organisations internationales, tous les acteurs qui travaillent sur l'océan. En revanche, il faut garder en tête que ce n'est pas une COP et que donc l'UNOC n'a
pas de... Conférence pour le climat, pardon.
Ce n'est pas une conférence des parties. Mm. Donc, il n'y a pas de mandat de négociation. Donc, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas d'accord contraignant qui va être trouvé à l'issue de ce sommet. C'est bien une scène internationale de haut niveau qui va réunir des chefs d'État, etc. Mais ce qui va en sortir, ça va être des engagements volontaires et une déclaration politique qui a pour but de donner des priorités. Mais il ne va rien avoir de contraignant qui va sortir de ça. En plus de ça, la question des ressources minérales des fonds marins ne sera pas traitée directement dans cette enceinte parce que ce n'est pas le but de l'UNOC. En revanche, étant donné, comme je le disais, que c'est un moment politique important qui place les enjeux maritimes au cœur de l'agenda international, ça peut être intéressant pour parler de cette question, la mettre justement au cœur de l'agenda international et favoriser finalement une mobilisation potentielle, par exemple vers un moratoire.
UNOC pour United Nations Ocean Conference.
Tout à fait.
Emmanuel H.
Oui, effectivement, je pense que la question de la sensibilisation, notamment à la question de l'exploitation des fonds marins, va être discutée, mais ce n'est pas l'objet. Quelque part, on va parler de la grande propriété des océans, on va aborder les différents lots comme une copropriété, j'allais dire comme un immeuble, hein, les ZEE, la haute mer, les fonds marins. Mais les fonds marins, ce n'est pas l'objet central de la négociation. Par contre, effectivement, c'est une bonne occasion de parler des océans et notamment du rôle fondamental de l'océan et de le rapprocher notamment de la question climatique. Mmh. Il faut quand même faire un parallèle. Hein. On est 10 ans après les accords de Paris. Et donc, quelque part, cette conférence, elle a une aura internationale qui est extrêmement importante, notamment pour relier des objets qui sont très complexes, notamment l'océan avec la question climatique.
En tout cas, pour nous, géopolitiques, même si effectivement cette question des fonds marins ne sera pas directement discutée, c'est une nouvelle frontière géopolitique. Et donc, j'ai saisi l'occasion de ce sommet pour en reparler. On en avait déjà parlé il y a quelques temps. De toute façon, c'est un sujet qui est amené et qui a une actualité sans cesse changeante. Alors, pour bien situer les choses, qu'est-ce que l'on peut dire des enjeux liés à la question de l'exploration et de l'exploitation des minerais au fond des mers? Quelles sont les régions principalement concernées qui souhaitent répondre? Émilie Normand.
Alors, je pense qu'il faut déjà distinguer deux types de ressources. Il y a les ressources qui vont être situées à moins de 200 000 nautiques des côtes d'un État. Et donc ça, ces ressources, c'est des ressources qui vont être sous l'autorité des États. Les États vont disposer de droits souverains sur les ressources qui sont donc à proximité de leurs côtes. Et donc, il y a quand même des obligations pour eux. Hein. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer stipule que les États doivent quand même créer un cadre environnemental et politique pour les exploiter. Ils ont l'obligation de définir un cadre et de conduire des évaluations des effets de l'exploitation de ces ressources. Et donc, sur ces ressources qui sont sous la juridiction des États, il y a plusieurs États qui envisagent de se positionner dessus, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, la Corée du Sud. Un des pays qui est très avancé aussi, ça va être le Japon, par exemple, qui a un programme pour lancer une exploitation. L'idéal pour lui, ça serait d'ici la fin des années 2020, mais c'est un programme assez sur le long terme. Mais donc, ça, c'est quelques exemples, mais c'est pour parler des ressources qui sont donc sous la juridiction des États. Mais le deuxième type de ressources, et c'est celui qui mobilise le plus en termes de géopolitique, c'est les ressources qui sont dans ce qu'on appelle la zone, et donc qui sont au-delà de la juridiction des États. Et là, ça tombe sous l'autorité de ce qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, qui a donc complète autorité sur ces ressources qui sont définies en fait comme le patrimoine commun de l'humanité. Et donc l'AIFM a pour mandat de réguler les activités dans la zone pour l'intérêt de l'humanité tout entière en fait. Et donc c'est important de distinguer ces deux zones.
Bien sûr, les 200 000 nautiques, c'est bien ce qu'on appelle la zone économique exclusive, hein, qui a été décrétée par l'ONU il y a déjà quelques années, sans imaginer d'ailleurs tous les problèmes que cela viendrait générer, des problèmes de frontières, frontières terrestres, frontières maritimes, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. La question de l'AIFM, elle est très importante parce que elle est là pour réguler les activités des uns et des autres. Donc, on l'a bien compris, chacun fait ce qu'il veut dans sa zone économique exclusive. Mais c'est au-delà tout cela pose problème avec des pays qui ont des appétits particulièrement forts. Quelles sont les régions concernées par cette question possible d'exploitation des fonds marins? Où se situent les richesses dont j'ai parlé en introduction, Emmanuel Hage?
Alors, les richesses... Il y a une zone qui est véritablement, j'allais dire, ciblée, c'est la zone Clermont-Clipperton, qui se trouve dans le Pacifique. Pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 4,5 millions de kilomètres, c'est la surface de l'Europe. Donc ça veut dire une superficie qui est absolument énorme, ce qui d'ailleurs introduit déjà une question sur la transparence de possibles activités qui pourraient se dérouler en son sein, quand vous voyez la superficie potentielle en fait de ces potentielles activités. Après, il y a aussi des îles du Pacifique qui sont aussi intéressées, notamment l'exemple de Nauru, c'est celui que vous allez trouver le plus souvent dans la littérature. Et à contrario, vous avez des îles du Pacifique qui refusent l'exploitation, par exemple des Palaos, c'est l'exemple contraire justement de Nauru. Ça veut dire que potentiellement, on a un espace très important sur lequel des compagnies pourraient venir exploiter les différentes ressources qui seraient disponibles dans les fonds marins.
Alors, de tout cela, on va parler. Qu'est-ce que l'on peut dire des quantités de métaux qui s'y trouvent? Quelle connaissance a-t-on de ce qui se passe à plusieurs milliers de mètres sous l'eau, là, sur la surface de l'eau, Emmanuel Hage?
Alors, on a des indications qui ne sont absolument pas des réserves. C'est-à-dire, je m'explique, dans le langage géologique, on a ce qu'on appelle des ressources et des réserves. Les réserves, c'est quand on sait que c'est économiquement et technologiquement productible. Là, quand on parle des fonds marins, on parle uniquement de ressources. Ça veut dire que, de facto, on a une incertitude sur à la fois la quantité et la rentabilité économique de ces ressources. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a potentiellement, lorsqu'on parle d'exploitation des fonds marins, c'est pour aller chercher du cobalt. Cobalt qui va être utile notamment dans toutes les technologies de stockage. On va aller chercher du cuivre, on va aller chercher du lithium, potentiellement du manganèse et du nickel. On peut aussi aller chercher des terres rares, mais pour tout vous dire, on aurait moins de 15% des réserves mondiales de terres rares qui sont dans les fonds marins. Or, des terres rares, on en a un tout petit peu partout sur le globe, on n'a pas besoin d'aller les chercher dans les océans. Après, effectivement, on aurait 4 fois plus de cobalt sous la mer que ce que l'on a sur Terre. On a en gros 20% du cuivre. Donc, quelque part, c'est très ciblé, ce type d'exploitation. Mmh. On va surtout aller chercher du cobalt et du nickel. C'est les deux métaux qui vont, avec un petit peu de manganèse, qui vont véritablement être ciblés par les différents possibles exploitants. Ce sont les matériaux de la transition énergétique et numérique. Et ce sont bien évidemment des matériaux qui sont essentiels dans, j'allais dire, le futur des économies. Après, bien évidemment, il y a tellement d'incertitudes, et notamment une incertitude qui est très peu soulevée, je trouve, c'est l'incertitude, même si que l'on soit pour ou contre, si on raisonne simplement en termes d'économiste, il n'y a aucune évaluation économique disponible sur le marché qui montre que ce type de gisement est productible. C'est-à-dire que les compagnies s'engagent tout simplement sur un commerce du rêve. Je retire toutes les incertitudes écologiques qui sont bien évidemment très très nombreuses. Mais d'un point de vue seulement économique, je m'interroge véritablement comment on est quelque part, c'est presque une bulle que l'on a, qui profite, j'allais dire, de l'engouement ou de l'envolée que l'on a sur la demande en matériaux critiques pour se poser la question d'aller forer, d'aller exploiter les fonds marins.
C'est finalement, d'une certaine manière, la peur de manquer. Parce que, Emmanuel Hage, tout ce que l'on suppose qui se trouve sous la mer. Alors, vous nous avez parlé du cobalt, vous avez parlé du nickel. On n'a pas prononcé encore le mot, si, moi, en introduction, de nodules polymétalliques. Je ne sais pas comment ils se situent et en quoi ils sont importants pour à la fois la transition énergétique et puis la transition numérique. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas sur Terre tout ce qu'il y a sous la mer? Et je reviens à cette question, c'est la peur de manquer qui fait que chacun va chercher toujours plus loin.
Alors, on a la peur de manquer. Les arguments pour ceux qui veulent développer les fonds marins, ils sont triples. Vous avez un argument qui repose sur le fait que si on développe les fonds marins, on va éviter d'avoir des problématiques environnementales dans les mines terrestres. Ce qui est un argument qui est complètement faux. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, on peut tout simplement se dire que l'exploitation des fonds marins ne va absolument pas se substituer à l'exploitation des mines terrestres. Donc, on aura à la fois les dommages environnementaux sur Terre et on les aura également en mer. Donc, cet argument-là, il ne passe pas. On a un argument sur les chaînes de valeur en disant tout simplement, il y a une problématique géopolitique. C'est vrai, elle existe, la problématique géopolitique. Pourquoi ? Parce que la production ou la transformation des métaux est concentrée entre les mains de quelques acteurs, notamment la Chine. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. Et quand je dis incertitudes, sur notamment la demande future en métaux. Je prends un exemple très simple. La semaine dernière est sorti le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Si vous comparez les prévisions de demande en 2025 par rapport à 2024, elles sont nettement inférieures. Et notamment pour quels métaux ? Notamment pour le cobalt. Pour le cobalt, lorsque vous observez ce qui s'est passé entre 2024 et 2025, en fait, les estimations de demande sont beaucoup plus basses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu du progrès technologique et surtout, on a eu un nouvel engouement pour des batteries qui s'appellent les batteries lithium-fer-phosphate qui ne contiennent pas de cobalt. Et du coup, vous vous dites tout simplement, allez oser exploiter les fonds marins alors que potentiellement on a du progrès technique qui va faire diminuer la consommation notamment de ce matériau qui s'appelle le cobalt, c'est une aberration même économique. Et donc, après, vous avez aussi l'argument économique qui est de dire, si on a un développement de l'exploitation des fonds marins, on va avoir une diminution du coût de la transition énergétique. Alors ça, c'est l'argument le plus, j'allais dire, le plus facile à balayer. Pourquoi ? Parce que, un, il n'y a pas d'estimation économique, mais surtout, lorsque vous regardez la volatilité des prix des métaux que l'on trouve justement dans les fonds marins, que ce soit le cobalt, le lithium ou le nickel, vous apercevez que sur les récentes années, en fait, les prix ont diminué très très fortement. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de capacités sur Terre. Hein. Lorsque vous regardez l'Indonésie, elle produisait à peine 20% du nickel mondial il y a 5 ans, elle en produit 60% aujourd'hui. Donc on a beaucoup de ressources terrestres. Donc avant d'aller miner les océans, soyons un peu raisonnables et continuons à faire ce que nous faisons sur Terre de manière peut-être plus soutenable.
Mais c'est probablement que certains ont intérêt à tout cela. On continue d'en parler.
Raining, yeah, out on the deep blue sea, storming so hard. Raining, storming on the deep blue sea. I wanna go home. All the planes are drowning. I called the airport this morning. They said, Johnny, we ain't gonna fly till about 3 or 4 days. We ain't gonna fly. The jet's about 3 or 4 days. You know it's raining so hard here. And it's storming out on the deep blue sea. I called my baby. I said, baby, please don't cry over me. I call my baby, honey, please don't cry over me. I said, raining here, it's storming out on the deep blue sea. I'm so lonely for you. I'm so lonely, baby. I'm trying just like you. It's raining here. It's thrown out on the deep blue sea. I talked to the captain. Said, Johnny, we gonna be over here. Another 3 or 4 days. I told the captain on the pilot too. We ain't gonna fly. About 3 or 4 days. Weather's so bad. All the planes are drowning.
Alors, Deep Blue Sea de John Lee Hooker. Emmanuel H. a parlé, Roman Luc, des incertitudes économiques hein, quant à ces projets d'exploration, surtout d'exploitation. Sur le plan écologique, que sait-on des éventuelles répercussions, conséquences ?
Alors, très peu de choses. Il faut d'abord avoir en tête que les ressources minérales dont on parle, elles se trouvent à plusieurs centaines, voire milliers de mètres sous la surface.
Ça peut aller jusqu'à 6 000 ?
Oui. Et donc, il faut des moyens techniques et économiques qui sont colossaux pour pouvoir déjà atteindre ces profondeurs juste pour de l'exploration, sans même parler d'exploitation encore. Et à l'heure actuelle, il y a moins de 25% des fonds marins qui sont cartographiés avec précision. Donc, ça illustre un peu la difficulté justement d'avoir accès et de connaître correctement ces milieux-là. Ça implique que la biodiversité qui est présente dans ces fonds marins est très mal connue. Il y a jusqu'à 90% des espèces qui n'ont pas encore été découvertes dans les grands fonds marins. Et les écosystèmes, ceux qui ont pu être étudiés pour l'instant, ce qui est quand même une partie assez infime, sont généralement caractérisés par une croissance assez lente, une faible résilience aux pressions. Donc ça, ce sont les premiers éléments à prendre en compte. Et donc, il y a une crainte déjà que leur récupération, leur résilience après la perturbation qui serait effectuée par une exploitation minière de ces fonds marins soit extrêmement longue, voire impossible. En plus de ça, à l'heure actuelle, les effets à long terme de l'exploitation sont mal connus. D'une part, parce qu'en fait, on a des données qui sont insuffisantes parce qu'on ne connaît pas bien ces écosystèmes. Et donc, ça rend très compliqué de mener des évaluations d'impact environnemental qui permettent d'avoir des données de référence fiables, justement, pour évaluer, en fait, les impacts que ça va avoir. On n'a pas encore forcément de technologie de surveillance environnementale qui pourrait détecter et mesurer efficacement les impacts potentiels de cette exploitation. Et il y a des études qui montrent que des endroits où il y a eu des tentatives, des essais, en fait, d'exploitation, il y a plus de 20 ans, même plus de 40 ans, après toutes ces années, les écosystèmes n'ont toujours pas repris vie complètement. Mmh. La vie est très, très limitée. Il y a encore les traces sur le fond. Enfin, donc, on est vraiment sur des impacts assez forts, non seulement pour les écosystèmes directement, mais aussi par effet en cascade, en fait, pour des écosystèmes qui ne sont pas forcément sur les fonds marins, mais qui vont être impactés par exemple, les sédiments qui vont remonter pendant l'exploitation. Et donc, on a une chaîne, en fait, de dommages potentiels sur d'autres écosystèmes qui peuvent aller donc jusqu'à avoir des impacts sur les communautés côtières qui vivent notamment de la pêche et qui en dépendent pour leur sécurité alimentaire et économique.
Alors, il y a bien sûr tout ça et également, j'en reviens à mes nodules polymétalliques qui, on l'a découvert assez récemment, sont producteurs d'oxygène. Ce qui veut dire que si on va aller chercher ces petites patates au fond des mers, eh bien, c'est évidemment très néfaste pour les océans. Émilie Normand, vous avez des choses à nous en dire?
Oui, bah brièvement, mais c'est vrai que c'était une découverte assez récente, hein, que ces nodules polymétalliques produisent de façon assez surprenante un nouveau type d'oxygène. Enfin, on appelait ça l'oxygène noir parce que c'est à une profondeur telle que c'est pas produit par photosynthèse et c'est un nouveau type de production d'oxygène qui est en fait assez fascinant et qui pourrait permettre de comprendre pas mal de choses, notamment sur l'évolution de la vie sur Terre et même d'envisager son émergence ailleurs. Donc c'est un type d'oxygène qui a entraîné pas mal d'engouement scientifique et en plus de ça, en fait, comme le disait Roman, ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les grands fonds marins. Et évidemment, en plus de ça, si on supprime cette toute nouvelle source d'oxygène qu'on vient de découvrir, ça va avoir un impact forcément assez phénoménal sur tous les écosystèmes qui dépendent de cet oxygène noir, justement.
Alors, on va essayer de comprendre un peu qui sont les acteurs et qui sont les plus gourmands, je veux même dire les plus avides. Vous évoquiez, Emmanuel H., les incertitudes économiques quant à l'exploitation des fonds marins. Alors, il y a une société canadienne qui est très en vue, ou en tout cas qui essaye vraiment de se placer sur ces questions-là. Elle s'appelle The Metals Company, qui fait tout pour forcer l'accès aux abysses, pour le moment donc interdit par le droit international. Et cette compagnie, elle s'est rapprochée récemment de Donald Trump. C'est même, Donald Trump n'a pas attendu longtemps depuis son investiture le 20 janvier pour faire savoir ses intentions. Il veut un accès aux vastes ressources qu'offrent les fonds marins. Pourquoi Trump a-t-il tellement envie d'y aller? Et qu'est-ce que vous avez à nous dire de cette entreprise canadienne, Emmanuel Hage?
Alors, pourquoi Trump a envie d'y aller? Tout simplement parce que Trump, il est dans une logique de sécurisation des ressources minérales. Lorsque vous prenez la situation des États-Unis, ils ont une liste des matériaux critiques comme nous avons en Europe, il y en a eu environ 55. Sur les 55, les États-Unis sont dépendants à 100% pour 10 d'entre eux et à 50% pour une trentaine de métaux. Donc ça veut dire que pour 40 des métaux critiques des États-Unis sur 55, les États-Unis sont dépendants de deux pays en majorité, en premier lieu la Chine, en deuxième lieu le Canada. Donc quelque part, aller chercher à l'extérieur, que ce soit au Groenland, en Ukraine ou dans les fonds marins, c'est dans une logique de sécurisation. Et on a aussi toute la logique, j'allais dire, sacrificielle de Trump, c'est-à-dire je vais aller chercher dans un territoire, je vais sacrifier le territoire pour pouvoir sécuriser mes propres intérêts. Donc quelque part, là, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas une surprise que Trump autorise notamment la compagnie TMC à s'appuyer sur le droit américain, parce que c'est ce qui se passe, pour aller exploiter à la fois la ZEE américaine et aussi la haute mer. Parce que quelque part, la demande de TMC, c'est sur les deux lots de la copropriété, c'est-à-dire à la fois les États-Unis, mais également la haute mer. Alors après, TMC, c'est une énigme, cette compagnie. Pourquoi ? Parce que c'est une compagnie qui, lorsque vous regardez un tout petit peu les bilans, n'a pas de chiffre d'affaires, est détenue notamment par quelques compagnies suisses qui lui louent les équipements. On a notamment la compagnie Allseas. On doit avoir aussi Glencore et Transocean qui doivent faire partie du jeu. Et alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces compagnies sont des compagnies suisses, pays qui, lui, est favorable au moratoire. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant entre une géopolitique des entreprises et quelque part la géopolitique des pays, c'est-à-dire les intérêts contradictoires des compagnies dans un pays qui est contre l'exploitation des fonds marins. Après, TMC, elle vend véritablement du rêve. Hein. C'est la compagnie qui, notamment, s'était appuyée sur l'État de Nauru pour pouvoir développer ses activités. C'est une compagnie qui fait, j'allais dire, qui véritablement vend des images à la fois très technologiques. Lorsque Roman tout à l'heure parlait de technologie, vous avez peut-être ces images de grands tracteurs ou aspirateurs qui vont aller aspirer. Alors moi, j'utilise pas le terme de patate parce que je trouve que c'est trop donné d'importance. Alors que ce sont des nodules, c'est de la vie, quelque part, alors que la patate, potentiellement, elle n'existe plus. L'image d'une entreprise très technologique, à tel point qu'on ne sait même pas si cette technologie existe. Quand vous allez, par exemple, voir le site web de TMC, vous pouvez vous interroger en fait, sur la réalité en fait, de ces technologies. Personnellement, je n'ai jamais vu de tracteur sur trois étages qui puisse aller ramasser comme ça les nodules polymétalliques dans les fonds marins. Donc, vous voyez, c'est tout un écosystème. Ce qui est très intéressant aussi, et à mon sens, c'est ce qui va aller dans le sens d'une réflexion plus importante des compagnies, c'est que les grandes compagnies minières, elles ne sont pas intéressées pour l'instant.
Aller, ça, c'est un signe, d'après vous.
C'est un signe, c'est un signe parce que tout simplement, le risque d'image, il est très important. Les compagnies minières, les grandes compagnies minières aujourd'hui développent quand même tout un narratif autour de la mine soutenable, autour de la mine durable. Vous imaginez une grande compagnie minière qui développe des normes, il y a des normes, la norme IRMA notamment, pour véritablement aller adoucir ce qu'est la mine et qui en même temps irait forer les océans. Donc aujourd'hui, ce sont les start-up. Et donc les start-up, elles doivent faire quoi ? Elles vendent du rêve.
Alors, on va poursuivre un petit peu sur cette géopolitique et savoir qui fait quoi et quelles sont les intentions des uns et des autres. Pour en revenir aux États-Unis, on peut souligner, on l'a évoqué tout à l'heure, l'AIFM, qui est donc l'Agence internationale pour les fonds marins. Les Américains ne reconnaissent pas, je parle sous votre contrôle bien sûr, cette institution. Est-ce que, de ce fait, ça leur donne totale liberté pour faire ce qu'ils veulent ? La question du droit, elle sera quand même intéressante à développer. Et ne serait-ce que l'élaboration d'un code minier des eaux internationales, c'est un code qui est en discussion depuis 10 ans. Où en est-on ? Qui souhaite répondre ? Roman Luc.
Merci. Alors effectivement, l'AIFM, donc l'Autorité internationale des fonds marins...
L'autorité, pardon, je disais l'agence, oui.
...a été créée dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc c'est un organe onusien qui est chargé d'organiser, de réglementer et de contrôler les activités liées aux ressources minérales dans ce qu'on appelle la zone, avec un grand Z, qu'Émilie Normand a mentionné tout à l'heure. La zone, c'est le sol et le sous-sol marin dans les eaux internationales. Donc c'est sur ces espaces que l'Autorité internationale des fonds marins est mandatée. Elle a pour rôle donc de délivrer des contrats d'exploration, de préparer un code minier qui, lui, fixerait des règles qui permettraient d'encadrer des potentielles activités d'exploitation cette fois, et donc d'élaborer des normes environnementales, économiques, techniques pour réglementer cette exploitation. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et donc ne sont pas partis aux négociations au sein de l'AIFM Pour autant, jusqu'ici, malgré cette absence de ratification, ils se conformaient, grosso modo, aux règles érigées par le droit international et par ce cadre onusien. Et
donc, jusqu'à présent.
Jusqu'à présent. Et donc, le décret présidentiel de Donald Trump du 24 avril dernier vient à l'encontre de ce droit international parce qu'il contourne explicitement le cadre onusien de l'AIFM et le multilatéralisme international, finalement. Il le contourne parce que ce décret vise à accélérer les capacités américaines pour miner à la fois dans les eaux américaines, mais aussi au-delà des eaux américaines, donc dans les eaux internationales. Et pour revenir sur ce qu'Amélie Normand disait tout à l'heure, dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il est stipulé que la zone, avec un grand Z dont je parlais, et ses ressources sont considérées comme patrimoine commun de l'humanité. Ça signifie que ce sont des ressources qui ne peuvent pas être appropriées unilatéralement par un État, normalement, dont les bénéfices doivent être partagés équitablement par tous les États et dont l'exploitation doit se faire dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Et c'est notamment en ça, donc, que ce décret américain va à l'encontre du droit international et du cadre multilatéral.
Alors, on peut rappeler, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais que finalement, Donald Trump s'était tourné donc vers l'entreprise canadienne qu'on a évoquée précédemment, The Metals Company. La question, j'en reviens à cela, Romaine Luc a été bien clair sur cette élaboration du code minier, qui, je le disais, est en discussion depuis 10 ans. Quels sont les principaux obstacles? Sur quoi ça achoppe? Pourquoi ce code minier n'arrive pas à accoucher de quelque chose de clair et précis, Romaine Luc?
Alors, effectivement, il y a des négociations depuis plus de 10 ans. Il faut savoir que là, actuellement, il y a un objectif informel d'adoption d'un code minier pour juillet 2025. Donc ça approche et c'est pour ça que c'est une année qui est un peu charnière concernant l'exploitation minière des fonds marins. Ça ne veut pas forcément dire que l'exploitation pourra commencer en 2025, même si un code minier était adopté cet été, parce qu'il y a d'autres étapes après. Après, il faut savoir que ce sont toujours, dans le cadre de ces négociations, des discussions qui sont très techniques, qui sont menées ligne par ligne, où chaque mot a vraiment son sens. Et donc, il y a plusieurs blocages, notamment au niveau des normes environnementale, parce qu'il y a des désaccords sur les seuils de perturbation qui sont acceptables pour les écosystèmes, par exemple. Il va y avoir des points de blocage sur le partage des bénéfices. Ça, c'est un grand classique des négociations internationales, parce qu'il y a des tensions entre les États développés du Nord et les États en développement du Sud à ce sujet-là. Et évidemment, des tensions, donc là, on rentre sur des choses assez techniques, mais sur les procédures plus précises de surveillance, de contrôle, de sanctions, etc., qui pourraient être mises en place.
En tout cas, on le voit, toute la complexité de tout cela. Alors, on va parler de la Chine, on va parler de l'Europe, notamment de la France, et puis aussi le positionnement des pays africains et des petits États insulaires sur ces questions d'exploitation des fonds marins. Oh baby, what a place to be. In the service of the bourgeoisie. Where can my believers be? I want to jump into the endless sea. Oh, the endless sea. Sea. I want to jump into the endless sea. Let it wash all over me. Much
Sea.
The Endless Sea de Iggy Pop. Nous sommes avec Romain Luc, Émilie Normand, Emmanuel H. pour parler de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins à l'occasion de la conférence de l'ONU qui se tient ce mois-ci à Nice, dans le sud de la France. Emmanuel H., on a parlé des États-Unis et de la grande soif de Donald Trump de satisfaire à ses besoins en ressources minières, son rapprochement avec la compagnie canadienne de Metals Company. Comment la Chine ? Alors, la Chine s'est déclarée, enfin voilà, qu'elle était outrée par ces déclarations de Donald Trump. Mais de son côté, qu'est-ce qu'elle fait, la Chine ? On la voit négocier des accords d'exploration avec les îles Cook, les îles Kiribati en Micronésie. Quelle est la stratégie chinoise sur cette question des fonds marins, Emmanuel Hage ?
Alors, la stratégie chinoise, elle est double, en fait. Il y a l'image internationale. Donc là, c'est ce que vous décriviez juste avant. C'est-à-dire, l'image internationale, c'est d'apparaître comme un îlot de stabilité par rapport à Trump. C'est-à-dire, dès qu'on a, en avril 2025, eu cette décision de Donald Trump, la Chine a dit, nous respectons le droit international, nous n'irons pas forer les océans. D'un autre côté, la Chine est, on le sait depuis de nombreuses années, est un des principaux partisans, en fait, de l'exploitation des fonds marins. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça lui permettrait de renforcer, notamment, son pouvoir de marché sur les principaux marchés de métaux et de contrôler davantage ce qu'elle contrôle déjà, c'est-à-dire la majorité des métaux de la transition bas carbone et numérique. Donc, quelque part, on a cette double position. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de se poser peut-être la question du pourquoi aussi elle a cette position de principe à l'international. Donc, il y a la position géopolitique. Mais je pense qu'il y a aussi une position, technologique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la Chine serait un peu en retard par rapport à d'autres acteurs. Et donc, son intérêt, d'un point de vue technologique, ça serait d'attendre 3, 4, 5 ans pour véritablement avoir plus de retours sur ses propres technologies. Elle ne serait pas prête, la Chine, à le faire dès maintenant. Donc, elle développe des accords, elle critique ce que font les États-Unis, mais d'un autre côté, elle est très, très contente, finalement, d'être dans cette position, parce que son objectif, c'est plutôt 2030 plutôt que 2025.
Tout à fait intéressant, cette position de la Chine. Alors, il y a une position qui m'a étonnée, moi, c'est celle du Japon. On voit le Japon très avide d'exploration et d'exploitation minière. Emmanuel H., vous êtes étonné aussi ou...
Alors non, pas du tout. Je ne suis pas du tout étonné parce que tout simplement, le Japon, depuis plusieurs décennies, a en son sein ce qu'on appelle le JOGMEC. Le JOGMEC, c'est à la fois un ministère qui regroupe des compagnies industrielles, qui fait de l'investissement dans la R&D, dans la technologie et qui s'intéresse aux fonds marins, j'ai presque envie de dire depuis 15-20 ans, s'intéressait déjà aux hydrates de méthane. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Japon, c'est un des pays qui est les plus dépendants à l'extérieur, que ce soit pour ses ressources en hydrocarbures ou en matières premières métalliques. Donc quelque part, moi, je ne suis pas étonné de voir le Japon ou notamment la Corée du Sud sur ces questions-là.
Alors, on va parler de la France ou on va parler de l'Europe avec vous, Émilie Normand. La France qui, elle, se met très en avant sur cette question et en s'opposant à la fois, alors l'exploration, je ne sais pas, mais très certainement l'exploitation. Elle est accompagnée par qui, la France, dans cette démarche et qu'est-ce qui la motive ?
Ouais, complètement. La position de la France, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même eu un revirement assez spectaculaire de sa stratégie, puisque donc en 2015 et puis même en 2021, c'était une position qui était plutôt pro-exploitation, en fait, de façon assez surprenante. On avait une circulaire qui invitait à valoriser les ressources des grands fonds marins, des investissements dans le cadre de France 2030, même qui visait à explorer, peut-être même à des fins d'exploitation plus tard, les grands fonds marins. Et puis, en 2022, on a un revirement complet à la conférence des Nations Unies sur l'océan à Lisbonne. C'est Emmanuel Macron qui appelait d'un coup à un moratoire et puis qui l'a réaffirmé ensuite et qui s'est même positionné, comme vous le disiez, en leader vraiment d'essayer de rallier les pays à un moratoire international sur l'exploitation des fonds marins. En fait, c'est assez intéressant. Et puis, justement, ça rejoint ce qu'on disait sur l'évolution des négociations sur le code minier international là, depuis 10 ans. Il y a eu un peu un décalage des problématiques, puisque au début de ces négociations, les questions, c'était vraiment des questions assez techniques, des modalités d'exploitation. Et puis, depuis à peu près 5 ans, on a de plus en plus de voix sur la scène internationale qui appellent à un moratoire sur l'exploitation, donc à une pause de précaution sur l'exploration en vue d'exploitation des ressources internationales. Et la France et assez leader là-dessus, parce qu'elle, elle veut aller même plus loin qu'un moratoire et demander l'interdiction pure et simple des ressources dans les fonds marins.
Alors, qui accompagne la France dans cette opposition?
Eh bien, 33 pays qui sont listés depuis quelques jours. Il y a même le Luxembourg, il y a, je crois, une douzaine de pays européens, mais il y a aussi d'autres partisans du moratoire. Ça va être le Canada, ça va être le Royaume-Uni, puis des îles du Pacifique aussi, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, des pays comme le Chili, comme le Mexique, comme le Panama. Donc c'est un ensemble de pays, mais ça doit quand même pas masquer le fait que, alors on a parlé des partisans, on a parlé des partisans du deep sea mining, pardon, et des opposants, mais ça doit pas masquer le fait qu'il y a une majorité de pays qui n'a pas défini de position très claire sur le sujet. Beaucoup de pays africains, par exemple, ne se positionnent pas vraiment dans ces discussions, tout simplement parce que c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas les technologies pour se positionner. Et eux, le discours, ça va surtout être sur la question du partage des bénéfices, de ce fameux mécanisme de partage des bénéfices qui bloque les négociations, parce que, on l'a dit, les ressources des fonds marins, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Et si c'était exploité, ça serait par des nations occidentales, ce qui pose la question aussi de la répartition des bénéfices, d'autant plus que, comme l'a dit Romane, un des effets que ça pourrait avoir, c'est un effet sur les pêcheries et sur les populations côtières. Et ça concerne beaucoup de pays africains, notamment, et de pays aussi dans les îles du Pacifique aussi.
Alors justement, donc on l'a compris, cette position des pays africains, dont on peut rappeler qu'ils ont juste à terre énormément de ressources minières déjà, et ils sont possiblement détenteurs de quantités vraiment très importantes de métaux. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Emmanuel H., sur ce que Émilie Normand vient de dire sur la position des pays africains. J'aimerais souligner que l'Europe, elle est assez divisée. Je pense à la Norvège, qui, elle, pousse à fond sur l'exploration et l'exploitation. Et qu'est-ce que l'on peut dire des petits États insulaires, eux-mêmes déjà très largement victimes du changement climatique, avec la montée des eaux
Ils sont partagés aussi, les États insulaires. Ce qui est important de mentionner, peut-être avant d'aller directement sur les États insulaires, c'est que cette question, elle transcende toutes les alliances géopolitiques internationales. Si vous prenez les BRICS+, il n'y a pas de consensus. Il y a des pour, la Chine, potentiellement l'Inde. Il y a des contre, le Brésil, par exemple. Si vous prenez le G7, vous avez des pareils, les États-Unis, le Japon. Si vous prenez l'OPEP, vous allez trouver des partisans et des opposants. Donc, quelque part, elle transcende la géopolitique, tout simplement parce que les alliances traditionnelles ne reflètent pas une position de principe. Après, Émilie l'a très bien dit, finalement, l'exploitation va concerner combien de pays ? Au maximum 10 pays qui pourraient avoir la technologie pour le faire. Donc là aussi, on a à travers justement déjà cette géopolitique qui tendance les alliances, on a finalement aussi un clivage nord-sud. Et vous rajoutez à cela des pays africains qui sont producteurs de métaux et d'autres qui ne sont pas producteurs de métaux, parce que ça, il y en a certains. Là aussi, vous n'avez pas de quelque chose de clair. Et lorsque vous prenez les petits États insulaires, donc première victime du changement climatique, vous avez ceux qui sont attirés par, quelque part, un possible développement via les fonds marins. Le problème, c'est que dans l'histoire, tout nous montre que malheureusement, développer en fait un pays en fait sur la base d'une seule matière première, c'est un pari très risqué. Et on l'a déjà vu, j'allais dire, sur de nombreuses situations auparavant. Et encore une fois, avec toutes les incertitudes sur le progrès technologique que l'on peut avoir, ou sur notamment le développement du recyclage ou de politiques de sobriété, c'est un engagement qui est absolument fort par rapport, j'allais dire, aux revenus potentiellement anticipés.
Alors, il y a encore trois choses sur lesquelles je souhaiterais avoir votre avis. C'est, bon, bien sûr, et on l'a compris, les fonds marins pourraient, ou peut-être sont déjà, des zones de conflit, un espace de confrontation, à l'avenir en tout cas, très certainement. La position prudente, est-ce qu'elle va pouvoir tenir longtemps ? Et puis, il y avait un élément que je souhaitais qu'on aborde aussi, on parle d'extraction. La question du sable. Alors là, il ne s'agit plus de fonds marins, on l'a bien compris, mais ça relève un petit peu de la même chose, avec cette avidité, les intérêts des uns, des autres, et puis un impact sur... Emmanuel H., qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sable ?
Je pense que le parallèle, il est excellent, tout simplement parce que vous avez exactement le même type de problématique de transparence des activités. Le sable, vous pouvez le trouver dans les carrières, dans le lit des fleuves et dans les océans. Trois possibilités de les avoir. Dans les carrières, c'est très réglementé. notamment en Europe ou dans les pays développés. Lorsqu'on est dans le lit des fleuves, déjà, on perd en transparence lorsqu'on est dans les océans, excepté, encore une fois, dans les pays, j'allais dire, développés, on n'a absolument aucune transparence. Le sable, c'est la deuxième matière première la plus consommée au monde, qui est fondamentale.
On peut rappeler à quoi il sert, hein, le béton, le verre...
Tout le béton, je prends toujours cet exemple, hein, béton, verre, l'entretien d'une route, hein, un kilomètre de route, c'est 30 000 tonnes de sable. Donc ça vous donne tout simplement ce qu'il faut en sable, notamment pour la construction d'infrastructures. Les premiers consommateurs, ce sont les pays asiatiques. Et après avoir fait de nombreuses recherches, essayez de trouver le prix du sable. Il n'y a pas de marché international du sable. Il y a des négociants de sable. C'est un marché qui est, j'allais dire, très peu transfrontalier, excepté dans certains pays asiatiques, pour acheminer notamment du sable à Singapour, qui est un très, très gros consommateur de sable, qui a bâti des infrastructures sur la mer, infrastructures qui auraient fait disparaître certaines îles indonésiennes, notamment pour leur construction. Donc, quelque part, le parallèle, il est véritablement à faire. Sur la question de la transparence, sur la question de la gouvernance, il n'y a pas d'autorité sur le sable. Et finalement, les enjeux sont les mêmes, tout simplement parce qu'on a des points de blocage lorsqu'on essaie d'obtenir des informations en fait, sur ces sujets-là.
Alors, la position prudente, est-ce qu'elle va pouvoir tenir longtemps la sobriété ? Elle est énorme.
Sur la position prudente, il y a quand même un peu d'espoir, si je peux dire, notamment parce qu'il y a un vrai enjeu d'image et de réputation. Et on voit qu'il y a, déjà, il y a une tendance avec de plus en plus d'États qui rejoignent l'appel à un moratoire international. Quand on regarde, c'est en tendanciel, il y a quand même plutôt une croissance de ce côté-là. Et surtout, il y a une société civile qui va se mobiliser. La société civile internationale se mobilise. On a par exemple plus de la moitié des Européens qui sont sondés qui soutiendraient un moratoire. Il y a 3 millions de signatures qui soutiennent une pétition de Greenpeace pour un moratoire, tout bêtement. Et puis surtout, et ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui prennent position contre l'utilisation de ressources qui seraient extraites des fonds marins. Et ça concerne, je crois que c'est plus d'une soixantaine de grandes entreprises qui ont signé une déclaration appelant un moratoire. Et c'est des entreprises comme Apple, comme BMW, comme Google, Samsung, Renault et j'en passe. Donc on a quand même des positions fortes de ce côté-là et on peut espérer que la société civile et l'engagement même du secteur privé tirent un peu la position prudente et donnent de l'espoir de ce côté-là.
Emmanuela, je vous partage cet optimisme des Millinormands.
Habitant auprès de la mer, je suis très inquiet, pour tout vous dire. Mais quelque part, moi, je rajouterais un argument parce que malheureusement, j'ai peur que les seules mobilisations citoyennes ne soient pas suffisantes. Je vais revenir sur un argument économique et j'espère que ce sont les prix du marché qui feront qu'on ne développera jamais ces nodules, notamment, tout simplement parce que j'espère que la rentabilité ne sera jamais là. Parce que malheureusement, s'il y a quelque chose de rentable dans ce monde, les mobilisations citoyennes, c'est très bien, mais les entreprises sont quand même avides de ce type de rendement. Et malheureusement, moi, je suis plutôt inquiet quand je vois potentiellement ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que j'ai très, très peur, finalement, que la porte soit ouverte, que l'administration Trump est mis le pied dans la porte et que d'autres pays s'engouffrent. Et quelque part, après, les compagnies, effectivement, il y a des compagnies qui s'engagent à ne pas acheter de métaux en fait, provenant des fonds marins. Mais le problème, c'est quelle transparence sur certaines chaînes de valeur. Et donc, quelque part, encore une fois, l'argument des prix. Donc, quelque part, que les prix soient toujours volatiles, c'est peut-être la seule garantie que les fonds marins ne soient jamais développés.
Parce qu'on peut effectivement douter, par ailleurs, de la mobilisation citoyenne quand on la voit si peu mobilisée sur des sujets tragiques de l'actualité qui fait notre quotidien. Merci Emmanuela. Je rappelle que vous êtes adjoint scientifique et économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle,
merci
directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé à Economics. Merci aussi Romane Luc, analyste en stratégie internationale, spécialisé sur les enjeux maritimes et chargé mission à l'IRIS. Merci. Émilie Normand, analyste en économie des matières premières stratégiques. Merci. Géopolitique, qui était signée Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation, Cécile Lavolo, vous êtes bien sur RFI. Dans quelques instants, Dimanche politique et tout de suite, le journal.